Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le thème de l'enfer. Nous arrivons à l'étude numéro 3. Le titre sera « Quelle vision avait l'apôtre Paul de l'enfer ?» Qu'en est-il de ceux qui ont écrit après Jésus? L'ont-ils suivi sur le sujet? Ont-ils ouvertement parlé du châtiment des méchants? Cette question est cruciale, et ce, pour deux raisons. Primo, si les auteurs du Nouveau Testament parlent tous d'une même voix avec Jésus, la conclusion n'en est que plus évidente. Et secondo, leurs discours feront plus facilement office d'exemple à suivre. Autrement dit, si Jésus et ses premiers disciples ne se sont pas cachés pour parler de l'enfer, nous devrions peut-être faire preuve de la même audace. Nous allons donc étudier quelques autres livres et lettres du Nouveau Testament et voir ce qu'on y trouve au sujet de l'enfer. Quelle vision l'apôtre Paul avait-il de l'enfer? Commençons par observer qu'il n'a jamais employé ce mot. N'est-ce pas curieux? L'aviez-vous remarqué? Dans ses 13 lettres, l'apôtre Paul n'a jamais utilisé le mot « géhenne » ou « hadès ». Évitait-il la question? Il serait trop facile de conclure ainsi. L'apôtre Paul évoque le sort des méchants plus que n'importe quel autre auteur du Nouveau Testament. Malgré l'absence du mot « géhenne » ou « hadès », l'apôtre Paul parle de la mort conséquence du péché par laquelle les méchants vont périr ou être détruits par la colère de Dieu. D'après l'apôtre Paul, le pécheur est condamné, il sera jugé par Dieu en raison de ses péchés. Et à moins que le pécheur ne se repente et ne se tourne vers Christ, il sera puni par Dieu quand Christ reviendra. Donc l'apôtre Paul décrit le sort des méchants par des termes comme périr, détruire, colère, punir et d'autres termes de ce genre à plus de 80 reprises dans ses 13 lettres. Plaçons ce discours dans son contexte. Dans ses lettres, l'apôtre Paul mentionne le sort des méchants plus souvent qu'il n'évoque le pardon, la miséricorde et le ciel réunis. Paul était convaincu que les méchants connaîtraient un terrible sort s'ils demeuraient dans leur péché. Si vous vouliez effacer de ces lettres tout ce qui concerne la colère et le châtiment, vous devriez travailler dur et faire preuve d'une grande créativité. Je me sens fautif quand je vois tous les efforts que l'apôtre déploie pour atteindre les non-croyants. Je ressens même de la culpabilité en lisant la souffrance qu'il a endurée pour partager l'Évangile. Ceci dit, vu ce qu'il a écrit au sujet de la peine infligée aux méchants, je comprends mieux sa grande motivation. ils réfléchissaient au sort qui leur serait réservé s'ils ne leur parlaient pas de l'Évangile. Ne serait-ce pas pour cela qu'il était poussé à aller vers les perdus? On dirait bien que oui. Cela expliquerait en quelque sorte son étrange prédication selon Actes chapitre 17. Dans ce chapitre, Paul se tient devant un auditoire strictement païen. Aucun juif ne l'écoute. Ces gens n'avaient certainement jamais entendu parler ni de Jésus, ni de l'Ancien Testament, ni du Dieu d'Israël. Rien de l'Évangile ne leur était commun. Paul se lève et il délivre son message et communique la bonne nouvelle. Et que fait-il? Il parle de jugement. Il mentionne beaucoup d'autres choses. Il cite même certains de leurs poètes, selon le verset 28. Mais quand il en arrive au cœur du sujet, il leur déclare que Dieu les jugera s'ils ne se repentent pas. Il dit, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en donne à tous une preuve certaine en le ressuscitant. C'est écrit dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Pas la moindre croix, non, non, pas la moindre rédemption, pas de pardon, ni de témoignage de conversion, ni de Dieu t'aime tellement, ou que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Non pas que toutes ces choses soient inutiles, l'apôtre Paul lui-même en parle à beaucoup d'autres occasions, mais ces personnes avaient besoin d'entendre plus que tout un autre discours. Jésus était ressuscité des morts et il allait les juger. Il allait les juger si elles ne se repentaient pas. Voyez-vous? Donc, c'est là tout le problème. Ce discours sur la colère et le jugement de Dieu est généralement mal perçu dans notre culture chrétienne. Il est sans amour et plutôt contre-productif. L'apôtre Paul s'en accommodait pourtant très bien. Il était même persuadé d'annoncer des vérités essentielles. Il rejoignait en cela Jean le Baptiste ainsi que Jésus. Il avertit les gens de la colère à venir et une preuve d'amour, me semble-t-il. Voyez-vous, par exemple, si mon fils de 2 ans court dans la rue, c'est simplement un exemple, est-ce manquer d'amour que de l'avertir d'un accident éventuel? Critique-t-on le pompier qui réveille une famille pour la sauver d'une maison en feu à 2 heures du matin? Reproche-t-on au médecin d'annoncer un cancer à un patient pour lui conseiller ensuite un traitement s'il veut vivre encore un certain temps? C'est vrai, de nombreux chrétiens ont abusé de ces concepts de jugement et de colère. Je me souviens parfaitement de la première prédication que j'ai comprise, du haut de la chair, le pasteur s'est poumonté à nous présenter toutes les horreurs de l'enfer. Il nous a prévenus, nous ne devions pas rejeter Jésus. Je me souviens parfaitement de ces paroles. Mieux vaudrait pour vous que vous arrachiez la langue. Nous avons probablement tous entendu un jour ce genre de prédicateur. Il s'empressait de clamer à tout le monde de se repentir. Il ne parle que de jugement et de colère. Ils oublient, semble-t-il, l'amour, le pardon, la compassion et la miséricorde du Seigneur. La Sainte Bible ne réduit pas Dieu, la vie et l'Évangile à une histoire uniquement de jugement et de besoin de se repentir. N'oublions pas que la sainte parole de Dieu est au fond une bonne nouvelle. Alors quoi? Quelques-uns ont trop tiré sur la corde de la colère et du jugement divin. Mais devrions-nous pour autant tomber dans l'autre extrême? Devrions-nous négliger un enseignement que la Sainte Bible souligne pourtant? Dieu est plein de compassion et de justice, d'amour et de sainteté, de colère aussi, mais aussi de pardon. Ne mettons pas de côté les attributs divins qui nous posent problème, juste pour louer ceux qui nous semblent acceptables. Revenons un peu à l'apôtre Paul. J'ai affirmé qu'il n'a jamais décrit l'enfer. Il existe toutefois un passage dans lequel il s'en approche, un passage au caractère d'urgence et qui regorge de passion. Il concerne la seconde venue de Christ et la colère qui s'ensuit. Notez s'il vous plaît 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 jusqu'au verset 9. Il est dit: en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 9. Plusieurs choses sont à relever dans ces versets. Premièrement, la colère de Jésus est ici une colère de rétribution et non pas une colère de correction. Autrement dit, elle ne vise pas à corriger le comportement de ses opposants pour qu'ils puissent être sauvés. Il s'agit plutôt, si j'ose bien dire, d'un acte de vengeance. En fait, c'est précisément ce terme que l'apôtre Paul utilise. Christ viendra pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je crois que j'ai pris cela dans la version Tob. chers amis, deuxièmement, l'apôtre Paul ne vise pas un groupe d'individus en particulier. Quand il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile, il pense clairement à tout être humain qui ne suit pas Jésus. Peu importe si certaines personnes ont l'air innocentes ou pas, si elles ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile, elles feront face, hélas, c'est moi, pas moi qui le dis, à la colère vengeresse de Dieu lorsque Jésus reviendra. En lisant ces versets, une chose me frappe. Je comprends que je suis comme allergique à l'idée de répéter les paroles de l'apôtre Paul. Affliction, vengeance, châtiment, ruine, tout cela pour tous ceux qui ne suivent pas Jésus. Je ne pense pas avoir jamais employé le terme « vengeance » pour décrire le sort des non-croyants. Or, refuser d'enseigner un passage de l'Écriture sainte est aussi mal que d'en abuser. Il est donc grand temps d'arrêter de nous excuser de Dieu. Il est grand temps de nous excuser auprès de lui de ce que nous sommes embarrassés par la façon dont il a choisi de se révéler. Deux autres lettres, en dehors de celle de l'apôtre Paul, s'étendent sur la colère et le jugement. En fait, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, semble tirer tout droit de l'enfer de Dante. Et Jude ressemble à un traité écrit au Moyen-Âge pour effrayer les paysans afin qu'ils fréquentent assidûment l'Église et qu'ils donnent régulièrement leur dîme. Ces deux livres parlent de ruine. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 et 3. Notez chapitre 2, verset 12, notez le chapitre 3, verset 7 et le verset 9, et encore Jude, verset 5, 10 et 11. Là, il est parlé de peine ou punition. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et Jude, verset 7, il est parlé de jugement. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 et 9. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 et 9. Il est parlé de condamnation. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 3. Ainsi que Jude, verset 4, il est parlé d'abîme. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, il est parlé de souffrance et de souffrance rétributive. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. Voilà donc ce qui attend ceux qui ne suivent pas Jésus. L'enfer est décrit comme l'obscurité des ténèbres. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 17, et Jude, verset 13. Et il est parlé de la peine d'un feu éternel. Jude, verset 7 et 23. Ces expressions était, comme nous l'avons vu, très répandu dans les contextes juifs des auteurs. Ces deux lettres soulignent que l'enfer est réservé aux anges déchu et aux faux enseignants qui s'adonnent au plaisir charnel et déforment l'évangile pour leur profit personnel. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1 et le verset 4, ainsi que les versets 15 et 16. Chers amis, notez ces indications bibliques et si une fois il m'arrivait de me tromper d'indication, je vous demande sincèrement pardon. Les deux auteurs affirment que le même châtiment attend tous ceux qui ne sont pas justifiés par Christ. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, et Jude, versets 14 et 15. Il n'est franchement pas agréable de lire ces images terrifiantes de colère et d'enfer, mais elles nous permettent de saisir une partie essentielle du message chrétien. Donc, Dieu punira sévèrement tous ceux qui ne plient pas le genou devant le roi Jésus. Encore une fois, ça ne vient pas de moi, c'est écrit noir sur blanc. Bien entendu, si d'avance vous dites que la Bible est un ramassis de mensonges et d'inventions, eh bien, je me serais donné de la peine pour rien. Mais peut-être une ou deux personnes qui vont écouter ce CD vont peut-être réfléchir à deux fois avant de le jeter à la poubelle. Cependant, chers amis, les descriptions de l'enfer de l'apôtre Pierre et de Jude ne sont rien comparées à celles de l'apôtre Jean dans Die Offenbarung, c'est-à-dire dans l'Apocalypse. Tournons-nous donc vers ce dernier livre de la Sainte Bible. Le premier passage présente l'enfer se trouve dans Apocalypse au chapitre 14. L'auteur parle du jugement final de Dieu. Il est dit que si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front, le 666, ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent, j'ai bien dit, qui reçoivent la fameuse marque de son nom. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Il est triste à dire, mais il y a déjà des milliers de gens qui ont une puce sous la peau qui indique exactement qu'ils appartiennent à Lucifer et à l'Antéchrist. L'idée de la fureur de Dieu et de sa colère, ainsi que l'image des tourments dans le feu et le soufre, et cela au siècle des siècles, sont absolument terrifiantes. Un des thèmes essentiels de l'Apocalypse est pourtant bien celui-ci. La fureur de Dieu est terrifiante. L'apôtre Jean n'essaye pas de réconcilier l'image du Dieu qui châtie et celle du Dieu d'amour qui meurt pour ses ennemis, qui est décrit en Romains chapitre 5. Non, non, non. L'apôtre Jean nous lance un terrible avertissement. Ne vous opposez pas à Dieu. Plus terrible encore est le châtiment qu'il décrit. Il est permanent. Il est sans aucune fin en vue. Non seulement l'apôtre Jean annonce que les gens seront tourmentés dans le feu et pas exterminés, mais il continue en écrivant que la fumée de leur tourment s'élève au siècle des siècles. Et pour enfoncer le clou, il ajoute, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Encore une fois, ne croyez pas que c'est une invention à moi pour vous faire peur. Jamais je n'oserais faire cela. Et là encore, il est très facile de se perdre dans des arguments, l'étude des mots et les débats théologiques pour finalement passer totalement à côté de l'essentiel. Ces choses décrivent la réalité. Nous parlons de la destinée de personnes réelles. Gardons le bien à l'esprit en examinant un autre passage de l'Apocalypse. Les derniers chapitres du livre dépeignent les événements après le retour du Christ. L'apôtre Jean décrit des temps de paix, de joie et de victoire pour tous ceux qui suivent l'agneau, des temps bénis qui n'ont pas de fin, plus de mort, ni de tristesse, ni de peur, ni de mal, ni de douleur, ni de larmes, rien d'autre qu'une vie infinie de bonheur avec le Créateur dans sa nouvelle création. Chapitre 21, verset 1 et le chapitre 22, verset 1 et 2 des Révélations. Voilà donc la destinée de tous ceux qui le suivent. Mais ceux qui ne le suivent pas ont aussi un avenir. Et voici comment l'auteur le décrit. Notez Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le diable qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, l'Antéchrist. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. En lisant ce verset, n'oubliez pas que le diable est un être qui a été totalement créé par Dieu. Nous nous cachons parfois derrière des questions du genre « Voyons, comment un Dieu bon, gentil, papa gâteau, pourrait-il créer quelqu'un et ensuite le tourmenter pour toujours ?» Et pourtant, très peu de personnes nieraient que c'est précisément ce que Dieu inflige à Satan, à Lucifer. Certains même s'en réjouissent. L'apôtre Jean décrit ensuite une scène du jugement. Il y voit les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Or l'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15. Une personne qui ne me veut pas forcément du bien m'a dit un jour, vous, eh bien c'est vous qui serez en enfer, parce que votre vie dans le passé n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Eh bien je sais. Je sais que s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ qui est venu pour tendre la main à ceux qui veulent bien l'accepter, qui veulent reconnaître humblement qu'ils sont perdus, qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés, s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, oui, je serai en enfer pour l'éternité. Mais ce n'est plus le cas. Et donc, prétendre, par exemple, comme on me l'a dit dernièrement, que je force en quelque sorte les gens d'écouter ce genre de message, d'écouter décédé. Autrefois, quand il n'y avait pas de CD, il y avait les cassettes. Alors, on me reprochait en me disant, vous nous forcez à les écouter, ces cassettes. Jamais, mais jamais, mais jamais. Chaque personne qui reçoit soit une brochure, soit un Nouveau Testament, soit un CD pour écouter, peut, si cela ne convient pas à la personne, de le jeter à la poubelle. Absolument. Personne n'est forcé. Jamais. Ce serait contre-productif. Mais revenons à notre étude. Le diable, la bête, et le faux prophète sont tourmentés, est-il dit, jour et nuit, au siècle des siècles, dans l'étang de feu. Mais l'apôtre Jean précise que les non-croyants, eux aussi, se retrouvent au même endroit. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Et s'ils se retrouvent au même endroit, ils subissent certainement le même sort, un châtiment sans fin. L'apôtre Jean écrit encore au chapitre suivant, je crois chapitre 21, verset 8, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, chamans et compagnie, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. L'étang de feu est une destination finale à la fois du diable et des non-croyants. Nous avons déjà vu que l'expression « tourmenté jour et nuit » au siècle des siècles fait référence à un châtiment qui ne finit pas, qui est destiné aux méchants. les kamikazes qui prétendent que vous irez au ciel où vous aurez des centaines d'anges magnifiques autour de vous, si vous vous faites sauter au mieux de gens absolument innocents qui n'ont parfois même aucun contact avec l'histoire de ces guerres, eh bien, ça, c'est un mensonge de Satan. Et cela, c'est malheureux. Notez à présent Apocalypse chapitre 22, verset 5. Et là, quand vous l'aurez lu, ceci étaye un peu plus loin au verset 14 et 15 de ce même chapitre, j'ai dit Apocalypse 22, que ceux qui ont été rachetés par Christ, c'est-à-dire ceux qui ont lavé leur robe, vivent dans la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, alors que les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge sont jetés dehors. Ce passage décrit une séparation constante entre les croyants qui vivent dans la présence de Dieu, verset 14, et les non-croyants qui vivent dehors, au loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la nouvelle création. Le châtiment est-il vraiment sans fin? Si oui, pourquoi donc est-il parlé de l'étang de feu et est-il qualifié de seconde mort? Ce mot laisse entendre que les méchants seront anéantis une fois pour toutes, plutôt que tourmentés à l'infini. Le mot en lui-même peut effectivement suggérer quelque chose de définitif, mais il est souvent utilisé à travers tout le Nouveau Testament, simplement dans un sens métaphorique, c'est-à-dire pas absolument littéral. Les auteurs du Nouveau Testament écrivent par exemple que les non-croyants bien vivants sont morts en référence à leur état spirituel. Vous avez autour de vous des gens qui ont l'air très vivants, qui vont boire leur bière ou leur verre de vin, qui vont prendre un bon repas, mais ils ne savent pas que spirituellement, ils sont déjà morts, spirituellement parlant, évidemment. Notez Saint-Luc, chapitre 15, verset 24 et le verset 32. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 45, et Colossiens chapitre 2, verset 13. Nous avons également vu que les expressions au siècle des siècles, les tourments, tels que jour et nuit, selon Apocalypse 14, verset 10 et 11, ainsi qu'au chapitre 20, verset 10, ces versets, ces indications, révèlent quelque chose dont on ne voit pas la fin. Il ne faut donc pas trop ici comprendre le mot « mort » dans le sens « anéantissement total », mais plutôt comme une séparation définitive de Dieu. Oui, c'est ça, et cela dans un état de châtiment sans fin. Oh, ne croyez pas que cela me plaît de vous dire cela, mais pas du tout. S'il dépendait que de moi, eh bien, je voudrais que vous tous soyez sauvés. C'est mon désir que vous soyez tous sauvés et que nous nous retrouvons tous ensemble. Oui, il y a donc un état de châtiment sans fin, malheureusement. Et pour tous ceux qui ont refusé la main tendue de Jésus-Christ. J'aimerais tellement penser, comme certains l'ont suggéré, que la Sainte Bible ne parle pas beaucoup de l'enfer. J'aimerais tellement pouvoir regarder mon ami en face quand il me posera cette question que nous redoutons tous. D'après toi, Henri, est-ce que tu penses que j'irai en enfer? Et j'aimerais de lui répondre, oh non, cet endroit n'existe tout simplement pas, n'aie pas peur. Jésus t'aime, il veut guérir toutes tes douleurs, il veut te rendre riche et prospère, il veut te rendre heureux, il veut transformer ta tristesse en joie. Dieu est uniquement un Dieu d'amour. Sérieusement, croyez-vous que un jour, quand je paraîtrai devant Dieu, cela me permettra d'être accepté? C'est pas très sûr, ça. Mais les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas la même réaction allergique à l'enfer que moi. Leur vision de Dieu, elle dépasse de loin la mienne. C'est une vision de Dieu qui permet de le prendre au mot sans essayer de le faire entrer dans nos propres normes morales et dans nos sentimentalismes. Une vision de Dieu qui permet de croire ce qu'il dit, même si nous ne comprenons pas tout parfaitement, moi parfois le premier. Chers amis, en quoi suis-je concerné? Vous êtes chrétien et vous vous demandez ce que tout cela a à voir avec vous. Surtout continuez à écouter. Jésus menace même de l'enfer ceux qui maudissent leurs frères ou leurs sœurs. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 22. Il n'avertit pas les alcooliques, les drogués, les fumeurs de joint ou les meurtriers. Jésus prêche le feu de l'enfer à ceux qui ont l'effronterie de s'en prendre à un autre avec des paroles dures. Certaines personnes ont écrit des livres, ont fait des cassettes comme moi autrefois, ont prononcé des sermons ou rédigé des articles au sujet de l'enfer en passant totalement à côté de ce point. Comme c'est surprenant, ou plutôt, comme c'est effrayant. En fait, ils ont même démoli au passage leurs frères et sœurs chrétiens juste parce qu'ils ont un point de vue un peu différent sur l'enfer. ils sont ainsi passés à côté du cœur de Saint Matthieu chapitre 5, que quiconque traite son frère d'imbécile pourrait bien se retrouver condamné à l'enfer. Avez-vous récemment traité un frère, une sœur, de stupide imbécile? Peut-être sur un blog, sur un Facebook ou ailleurs. Trop souvent, ces passages sur l'enfer donnent du grain à moudre lors de multiples débats et tout le monde passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à la mise en garde. Jésus n'a pas parlé de l'enfer uniquement pour nous donner l'occasion d'étudier, de débattre et d'écrire ou faire des CD, mais pour que nous menions une vie sainte. Arrêtons-nous de calomnier. Vivons en paix et dans l'unité fraternelle. Jésus déteste que nous descendions nos frères et sœurs avec des paroles dégradantes, des paroles qui n'honorent pas les créatures merveilleuses qu'elles sont, puisqu'elles portent l'image de Dieu. Et qu'en est-il de Saint Matthieu chapitre 7? Le passage sur l'enfer, sans doute, qui est le plus effrayant de toute la Bible. Quel en est le mot le plus effrayant? Est-ce l'enfer? Est-ce le feu, la fournaise éternelle? Est-ce l'obscurité, les ténèbres? Ou le ver et les tourments? En fait, aucun de ces mots n'apparaît dans ce texte. Le mot le plus effrayant, c'est « beaucoup ». Vous allez voir pourquoi. Car Jésus a dit « beaucoup », ça veut dire aussi « des nombreux ». « Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» etc. etc. Chers amis, voyez-vous un peu la contradiction? Nous disons que nous croyons en l'enfer et nous ne faisons aucun effort pour faire tomber les barrières de racisme et de supériorité raciale. Prenons-nous les paroles de Jésus au sérieux? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est ce que certains vont dire, selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 22. Ça, c'est le jour du jugement. Ça, c'est la fin. Il n'y a pas de seconde chance, ni de deuxième, ni de troisième. C'est pour beaucoup le dernier instant paisible avant de passer le reste de leur vie en enfer. Mettez-vous un instant à leur place. Utilisez la touche de avance rapide et faites défiler votre vie jusqu'à ce jour-là. Serez-vous parmi ceux, vous, qui désespérez et que criez « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci et n'ai-je pas fait cela? N'ai-je pas donné un petit sou? Tout cela en ton nom? » Comment Jésus réagira-t-il à votre interminable liste d'activités chrétiennes, à vos cultes de Pâques et de Noël, à vos offrandes, à vos études bibliques, à vos agapes à l'église, à vos conversions en camp d'été? Êtes-vous certain d'être du bon côté? Quelle preuve avez-vous que vous connaissez vraiment Jésus, comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à vous piéger, je ne cherche pas cela. Je vous pose ces questions pour les mêmes raisons que Jésus quand il nous met en garde. C'est la plus grande preuve d'amour, me semble-t-il, que je puisse vous donner. Beaucoup iront en enfer. Je suis triste de cela. J'en suis pas heureux. Alors qu'ils pensaient pouvoir valser au paradis et pouvoir chanter à la fête de la bière de Munich, « Wir gehen alle, alle in den Himmel. » Et Jésus leur dira, « Mais je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » C'est Matthieu, chapitre 7, verset 23. Chers amis, ne devrions-nous pas fournir davantage d'efforts pour engager sous la bannière de l'Évangile de Christ la réconciliation et l'unité raciale? Car un jour, Christ reviendra et il y aura une fête d'adoration incroyable. Il y aura peut-être pas seulement les fanfares de Munich ou des accordéons de Paris. Il y aura des gens de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les couleurs qui plieront le genou devant le roi et feront la fête. Si cette idée-là vous irrite un peu, et retournez simplement lire le chapitre 8 de Saint Matthieu. Ce chapitre est écrit pour vous. Et qu'en est-il des pauvres? Je n'ai jamais dit à quelqu'un, tu dois donner tout ce que tu possèdes pour te retrouver à la rue à 90 ans, ce qui est mon âge, pour mourir de froid et de faim. Jamais je dirai une chose pareille à qui que ce soit. Mais Jésus peut parfois être ambigu quant à la nature et à la durée de l'enfer, mais il est sans équivoque sur la nécessité d'atteindre les pauvres. Pourtant, beaucoup de ceux qui prêchent le feu de l'enfer sont trop nourris parfois et trop bien payés. Ils vivent dans le luxe et ne font absolument rien pour la majorité des chrétiens qui vivent avec moins d'un euro. Même des chrétiens. C'est la vérité. Et bien sûr, nous n'avons pas à penser que les autres qui ne sont pas chrétiens, c'est bien fait pour eux. Évidemment pas. On n'a pas le droit de penser ainsi. Donc quel contraste avec Jésus, lui, dans sa longue prédication sur le jugement. Il a fait de l'aide aux pauvres un critère absolu pour la destinée éternelle. Je sais que tout le monde veut apporter des précisions sur ce point-là, et chacun d'ajouter toutes sortes de notes au bas des pages. Corrigeons vite la théologie branlante de Jésus selon Saint Matthieu chapitre 25. Certes, nous sommes justifiés par la foi. Certes, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Certes, il ne s'agit pas vraiment d'aider ceux qui sont littéralement pauvres, etc. Une chose est toutefois bien curieuse, ces personnes qui, dans ce passage, défend de bec et ongles le caractère littéral des paroles de Jésus au sujet de l'enfer, ce sont les mêmes qui cherchent à atténuer ces déclarations pourtant très claires à propos de l'aide aux pauvres, aux démunis, aux misérables. En revanche, certains conservent les propos de Jésus sur les pauvres, mais veulent retirer l'enfer du tableau. Parfois, les gens en retirent même carrément Jésus. Gardons donc les deux vérités. L'enfer existe vraiment, et venir en aide aux pauvres est 100% biblique. Jésus a enseigné ces deux vérités-là. Mieux, il les considérait comme étant nécessaires et liées entre elles. Dans cette courte lettre, Jacques, l'apôtre, ne dit pas grand-chose au sujet de l'enfer. En fait, il ne s'y réfère qu'une seule fois. Mais attention, quand il en parle, c'est à moi, oui, à moi, personnellement, à moi qui enseigne la Sainte Parole sur des CD, c'est à moi qu'il s'adresse directement. Le contexte, c'est l'avertissement aux enseignants. Ils seront jugés plus sévèrement, ça me concerne, que les autres. Jacques, chapitre 3, verset 1. Jacques dit que la langue est capable d'embraser une grande forêt. Verset 5. La langue est un feu, continuait-il, et elle est elle-même embrasée par l'enfer. Verset 6. Oui, chers amis, vous savez, je voudrais simplement vous dire, jamais je me permettrai, sur les plus de 3000 CD que l'Esprit-Saint m'a aidé à faire, de dire des choses qui seraient anti-bibliques ou contraires à l'éthique de la sainteté de Dieu. Car je sais que en ce cas-là, j'irai tout droit en enfer. Je ne prends pas cela sur comment auf die leichte Schulter, à la légère. Chers amis, croyez-moi, tout cela est absolument important. Et comme nous l'avons vu, les images les plus terrifiantes de l'enfer, elles se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, die Offenbarung, The Revelation. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel l'apôtre Jean a écrit ce livre. Il n'a pas rédigé une brochure d'évangélisation. Les passages sur l'enfer ne visent pas à effrayer simplement les gens au point de les pousser à la conversion. Non, non, non. Ils sont surtout conçus, écoutez bien, pour avertir les croyants qui vont à l'église, pour qu'ils gardent la foi dans l'adversité. En fait, les descriptions de l'enfer des chapitres 14, 20 et 21 ont d'abord été écrites pour les sept églises des chapitres 2 et verset 3. Non, excusez, des chapitres 2 et chapitre 3 de Apocalypse. Et dans ces églises, Certains avaient abandonné leur premier amour, est-il dit. Notez Apocalypse chapitre 2, verset 4. Cela est suivi de l'hérésie et de faux enseignants, verset 20, et était devenu suffisant et tiède. Être devenu suffisant et tiède à cause de certaines richesses amassées. Chapitre 3, verset 15 à 17. Le livre de l'Apocalypse de Die Offenbarung, cela ne s'adresse aux personnes qui confessent surtout Jésus de leur bouche, mais parfois qui nient leur action. Et c'est donc à elles que Dieu réserve ses descriptions les plus terribles du feu de l'enfer et du soufre. Certains croyants débordent carrément, on peut dire, de richesses. Ils en débordent au point de se laisser anesthésier par leur dépendance au confort et à la sécurité. Et encore une fois, jamais il est dit à qui que ce soit de tout donner et te retrouver à la rue, tremblant de foi et en ayant faim. Jamais j'ai dit ça à personne. Mais nous pouvons donner un peu du superflu. Par exemple, oh, c'est pas bon que je parle de ça, pardonne-moi Seigneur de le mentionner, qu'il n'y ait pas d'orgueil en cela. Il y a deux, parfois trois, femmes missionnaires dont l'appartement que je paye malgré tout encore, bien que j'y suis pas, comme elles ne gagnent pas d'argent, mais qu'elles sont pleines de zèle, ces missionnaires, je les aide pour qu'ils puissent imprimer des CD pour les envoyer en Afrique et les donner autour d'eux, même ici à Genève. Encore une fois, je demande pardon au Seigneur d'en parler. Bien sûr, le Seigneur me donne de la sagesse pour ne pas entrer moi-même en dette et pour ne pas être sur la paille. Mais je lui fais confiance. Il m'a ressuscité, remis en vie, où j'étais entre la vie et la mort plusieurs fois, au sujet de ces 90 ans. Et aujourd'hui, je vous parle à 90 ans. C'est pas moi. J'ai demandé au Seigneur de m'aider, de le faire par l'Esprit Saint. Vous l'avez bien compris. Donc, encore une fois, je demande pardon au Seigneur s'il y a eu là quelques orgueils quelconques. Je demande pardon si cela pourrait être compris ainsi. Oui, il y a de plus en plus de croyants qui reconnaissent certains problèmes et qui entreprennent de faire des changements dans leur vie. Ça, c'est encourageant. Jésus s'est adressé ainsi aux quelques-uns de l'église de Sardes qui ont refusé de succomber. Cependant, il est dit, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Dit Offenbarung, Apocalypse, chapitre 3, verset 4. Que cela puisse vous encourager. J'aimerais tellement que Jésus me fasse la grâce de ces paroles. Tu en es digne. Toi qui écoutes maintenant, tu en es digne. Oui, Seigneur, sauve-nous. Racisme, avarisme, confiance mal placée, faux enseignement, mauvaise utilisation des richesses, paroles dégradantes envers les autres, ce sont vraiment des choses là qui condamnent une personne à l'enfer, d'après les Saintes Écritures, oui. Ne passons donc pas à côté de la raison d'être de ces mises en garde. Dieu ne veut pas simplement que nous acceptions intellectuellement sa sainte parole. Il veut que nous vivions en fonction d'elle. Pour sauver une personne en train de mourir, le médecin urgentiste lui envoie un électrochoc. De la même manière, la croyance en l'enfer devrait nous délivrer dans notre suffisance de l'emprise étouffante de la passivité. Ayez un peu plus de zèle et bougez vos fesses. Oui, Seigneur, aide-moi à vaincre mon égoïsme. Je veux aimer de la façon dont tu me demandes d'aimer. Je ne veux plus prononcer de paroles insultantes, même pour plaisanter. Je veux bouleverser, oui, mes ennemis, par l'amour chrétien, par l'amour et la compassion. Oui, Saint-Esprit, sauve-moi, mets-moi à part et rends-moi digne de toi. Amen. Prions maintenant une prière la plus ancienne que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit respecté, honoré, sanctifié, que ton règne s'établisse et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais au contraire, délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'ai pris cette prière dans une Bible très ancienne de langue allemande. Que le Seigneur vous bénisse, et il aime tous ceux qui ont eu le courage de reconnaître qu'ils étaient perdus et qu'ils ont accepté sa main tendue pour être sauvés. À demain matin pour la suite et fin de cette série, que je répète, c'est la deuxième série, quand j'en ai déjà fait une il y a fort longtemps, quand j'étais nettement plus jeune. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.